Conclusion. J'ai tenté dans ce livre de proposer une histoire à la fois économique, sociale, intellectuelle et politique des régimes inégalitaires. C'est-à-dire une histoire des systèmes de justification et de structuration de l'inégalité sociale, depuis les sociétés trifonctionnelles et esclavagistes anciennes jusqu'aux sociétés postcoloniales et hypercapitalistes modernes. Il va de soi qu'un tel projet sera toujours en cours. Aucun livre ne pourra jamais épuiser une matière aussi vaste. Par définition, toutes les conclusions obtenues sont fragiles et provisoires. Elles reposent sur des recherches imparfaites qui ont vocation à être étoffées et étendues à l'avenir. J'espère surtout que ce livre aura permis au lecteur de préciser ses idées et sa propre idéologie de l'égalité et de l'inégalité sociale et contribuera à stimuler de nouvelles réflexions sur ces questions. L'histoire comme lutte des idéologies et comme quête de la justice. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des classes, écrivaient Friedrich Engels et Karl Marx en 1848 dans le Manifeste du Parti communiste. L'affirmation reste pertinente, mais je suis tenté, à l'issue de cette enquête, de la reformuler de la façon suivante. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de la lutte des idéologies et de la quête de la justice. Autrement dit, les idées et les idéologies comptent dans l'histoire. La position sociale, aussi importante soit-elle, ne suffit pas à forger une théorie de la société juste, une théorie de la propriété, une théorie de la frontière, une théorie de l'impôt, de l'éducation, du salaire, de la démocratie. Or, sans réponse précise à ces questions complexes, sans une stratégie claire d'expérimentation politique et d'apprentissage social, les luttes n'ont pas de débouché politique bien défini. Cela peut parfois mener, après la prise du pouvoir, à des constructions politico-idéologiques encore plus oppressantes que celles que l'on entendait renverser. L'histoire du XXe siècle et du désastre communiste oblige aujourd'hui à une étude minutieuse des régimes inégalitaires et de leurs justifications, et surtout des dispositifs institutionnels et des modes d'organisation socio-économique permettant réellement l'émancipation humaine et sociale. L'histoire de l'inégalité ne saurait se réduire à un éternel affrontement entre les oppresseurs du peuple et les fiers défenseurs de ce dernier. Elle repose de part et d'autre sur des constructions intellectuelles et institutionnelles sophistiquées qui ne sont certes pas toujours exemptes d'hypocrisie et de volonté de perpétuation de la part des groupes dominants, mais qui méritent néanmoins d'être examinées de près. À la différence de la lutte des classes, la lutte des idéologies repose sur le partage des connaissances et des expériences, le respect de l'autre, la délibération et la démocratie. Personne ne détiendra jamais la vérité absolue sur la propriété juste, la frontière juste, la démocratie juste, l'impôt ou l'éducation juste. L'histoire des sociétés humaines peut se voir comme celle de la quête de la justice. Seule la confrontation minutieuse des expériences historiques et personnelles et la délibération la plus étendue peuvent permettre de faire des progrès dans cette direction. Pour autant, la lutte des idéologies et la quête de la justice reposent aussi sur l'expression de positions clairement définies et d'antagonismes assumés. Sur la base des expériences analysées dans ce livre, je suis convaincu qu'il est possible de dépasser le capitalisme et la propriété privée et de mettre en place une société juste sur la base du socialisme participatif et du social-fédéralisme. Cela passe notamment par l'établissement d'un régime de propriété sociale et temporaire reposant d'une part sur le plafonnement et le partage des droits de vote et du pouvoir avec les salariés dans les entreprises et d'autre part sur un impôt fortement progressif sur la propriété, une dotation universelle en capital et la circulation permanente des biens. Cela implique également un système d'impôt progressif sur le revenu et de régulation collective des émissions carbone permettant de financer les assurances sociales et le revenu de base, la transition écologique et la mise en place d'un véritable droit égalitaire à l'éducation. Cela passe enfin par le développement d'une nouvelle forme d'organisation de la mondialisation, avec des traités de co-développement plaçant à leur cœur des objectifs quantifiés de justice sociale, fiscale et climatique, et conditionnant à leur réalisation la poursuite des échanges commerciaux et des flux financiers. Cette redéfinition du cadre légal exige la sortie d'un certain nombre de traités en vigueur, en particulier les accords de libre circulation des capitaux mis en place depuis les années 1980-1990, qui empêchent la réalisation de ces objectifs et leur remplacement par de nouvelles règles reposant sur la transparence financière, la coopération fiscale et la démocratie transnationale. Certaines des conclusions obtenues peuvent sembler radicales. En réalité, elle se situe dans la lignée d'un mouvement vers le socialisme démocratique qui est en route depuis la fin du XIXe siècle au travers de transformations profondes du système légal, social et fiscal. La forte réduction des inégalités observée au milieu du XXe siècle a été rendue possible par la construction d'un État social reposant sur une relative égalité éducative et sur un certain nombre d'innovations radicales, comme la cogestion germanique et nordique, ou la progressivité fiscale à l'anglo-saxonne. La révolution conservatrice des années 1980 et la chute du communisme ont interrompu ce mouvement et ont contribué à faire entrer le monde, depuis les années 1980-1990, dans une nouvelle phase de foi indéfinie dans l'autorégulation des marchés et de quasi-sacralisation de la propriété. L'incapacité de la coalition social-démocrate à dépasser le cadre de l'État-nation et à renouveler son programme dans un contexte marqué par l'internationalisation des échanges et la tertiarisation éducative a également contribué à l'effondrement du système gauche-droite qui avait permis la compression des écarts dans l'après-guerre. Mais face aux défis posés par la remontée historique des inégalités, le rejet de la mondialisation et le développement de nouvelles formes de repli identitaire, la prise de conscience des limites du capitalisme mondial dérégulé s'est accélérée depuis la crise financière de 2008. Les réflexions visant à mettre en place un nouveau modèle économique, à la fois plus équitable et plus durable, ont repris leur cours. Les éléments rassemblés ici sous l'étiquette du socialisme participatif et du social-fédéralisme ne font dans une large mesure que reprendre des développements visibles dans différentes parties du monde et remettre ces évolutions dans une perspective historique plus large. L'histoire des régimes inégalitaires étudiés dans ce livre montre cependant à quel point de telles transformations politico-idéologiques ne sauraient être envisagées de façon déterministe. De multiples trajectoires sont toujours possibles en fonction de rapports de force, impliquant à la fois des logiques événementielles de court terme et des évolutions intellectuelles de plus long terme, qui apparaissent souvent comme autant de répertoires d'idées dans lesquels les moments de crise peuvent aller puiser. Le risque d'une nouvelle vague de concurrence exacerbée et de dumping fiscal ou social est malheureusement bien réel, avec à la clé un possible raidissement nationaliste et identitaire qui est d'ailleurs visible aussi bien en Europe et aux États-Unis qu'en Inde, au Brésil ou en Chine. Des limites de la désoccidentalisation du regard. J'ai tenté dans ce livre de décentrer le regard sur l'histoire des régimes inégalitaires. Le cas de l'Inde s'est avéré particulièrement instructif. Outre que l'Union indienne offre l'exemple d'un fédéralisme démocratique opérant au sein d'une communauté humaine de très grande ampleur, le cas indien montre comment il est possible de faire appel aux outils de l'état de droit pour tenter de sortir d'un très lourd héritage inégalitaire lié à la rencontre entre une société de caste ancienne et sa rigidification par la puissance coloniale britannique. Les outils institutionnels développés à cet effet ont notamment pris la forme de quotas et de réservation de place à l'université, dans l'emploi public et dans les fonctions électives pour les personnes issues de classes sociales défavorisées et historiquement discriminées. Ils n'ont pas suffi à résoudre tous les problèmes, tant s'en faut. Mais de telles expériences sont riches d'enseignements pour le reste de la planète, et en particulier pour les démocraties électorales occidentales, qui vont, elles aussi, devoir faire face à d'immenses inégalités éducatives, longtemps éludées, et qui commencent tout juste leur apprentissage du multiconfessionnalisme que l'Inde connaît depuis 10 siècles. Plus généralement, J'ai essayé de montrer à quel point il est indispensable pour comprendre le monde actuel de revenir sur l'histoire longue des régimes inégalitaires, et en particulier sur la façon dont les puissances propriétaristes et coloniales européennes ont affecté le développement des sociétés trifonctionnelles extra-européennes. Outre que les traces de cette histoire sont encore bien présentes dans la structure des inégalités contemporaines, l'étude des idéologies inégalitaires anciennes et de leur sophistication permet aussi de mieux mettre à distance les idéologies du présent, qui ne sont pas toujours plus sages que celles qui les ont précédées et qui finiront elles aussi par être remplacées. Malgré tous mes efforts en vue de décentrer le regard, je veux dire néanmoins à quel point ce livre reste déséquilibré. Un peu moins sans doute que mon livre précédent, mais beaucoup trop tout de même. La Révolution française revient sans cesse et l'expérience de l'Europe et des États-Unis est constamment sollicitée, sans rapport avec leur poids démographique. Jacques Goudy, dans son livre sur le vol de l'histoire, a dénoncé avec justesse la tentation souvent irrépressible, y compris parfois sous la plume de chercheurs en sciences sociales bien intentionnés, d'écrire l'histoire depuis un point de vue occidentalo-centré, en prêtant au monde euro-américain des inventions scientifiques qui ne sont pas les siennes, quand on ne lui attribue pas l'invention de l'amour courtois ou du goût pour la liberté, de la tendresse filiale ou de la famille nucléaire, de l'humanisme ou de la démocratie. J'ai tenté dans ce livre d'échapper à ce biais, mais je ne suis pas sûr d'y être parvenu. Pour une raison simple, mon regard est profondément influencé par mon ancrage culturel, les limitations des connaissances et par-dessus tout, par l'extrême faiblesse de mes compétences linguistiques. Ce livre est celui de quelqu'un qui ne lit correctement que le français et l'anglais et qui ne connaît bien qu'un ensemble limité de sources primaires. Cette enquête brasse large, trop peut-être, et je m'excuse auprès des spécialistes des différents domaines pour les approximations et les raccourcis qu'ils y trouveront. J'espère qu'elle sera très vite complétée et dépassée par de multiples travaux renouvelant notre compréhension de régimes inégalitaires particuliers, notamment dans les nombreuses aires géographiques et culturelles mal couvertes dans cet ouvrage. Sans doute mon regard est-il aussi déterminé par ma trajectoire personnelle, plus encore que je ne l'imagine. Je pourrais évoquer la diversité des milieux sociaux et des persuasions politiques à laquelle mes origines familiales m'ont exposé. J'ai également vu mes deux grands-mères souffrir du modèle patriarcal qui était imposé à leur génération. L'une était malheureuse de sa vie bourgeoise et est disparue prématurément à Paris en 1987. L'autre a été domestique de ferme à 13 ans pendant le Second Conflit mondial et s'est éteinte en 2018 dans l'Indre-et-Loire. J'ai entendu l'une de mes arrière-grand-mères, née en 1897 et disparue en 2001, me raconter ses souvenirs d'avant 1914, quand la France préparait sa revanche contre l'Allemagne. Né en 1971, je suis devenu adulte grâce à la liberté que m'ont donnée mes parents, puis en écoutant à la radio l'effondrement des dictatures communistes lorsque j'étais étudiant en 1989, suivi de la guerre du Golfe en 1991. Si j'examine comment ma vision de l'histoire et de l'économie a évolué depuis mes 18 ans, je crois que ce sont avant tout les sources historiques que j'ai découvertes et exploitées qui m'ont conduit à modifier sensiblement mes conceptions initiales, qui étaient plus libérales et moins socialistes qu'elles ne le sont devenues. En particulier, l'écriture des « hauts revenus en France au XXe siècle » 2001 m'a fait comprendre à quel point la réduction des inégalités s'était faite dans la violence au cours du siècle dernier. La crise de 2008 m'a également amené à m'intéresser de plus près aux fragilités financières, patrimoniales et internationales du capitalisme mondial et à l'histoire du capital et de son accumulation, qui est au cœur du capital au XXIe siècle, 2013. Le présent livre s'appuie quant à lui sur de nouvelles sources issues aussi bien de l'histoire coloniale que des enquêtes post-électorales, ce qui m'a conduit à développer une approche politico-idéologique des régimes inégalitaires. Mais sans doute s'agit-il là d'une reconstruction trop rationnelle, qui néglige les effets cachés de mes expériences personnelles anciennes et récentes sur la production de tel ou tel raisonnement. J'ai tenté dans ce livre de restituer au lecteur la partie consciente de mon cheminement, c'est-à-dire les sources historiques, les travaux et les lectures qui m'ont amené aux positions que je défends autant que je puisse en juger. du rôle civique et politique des sciences sociales. Les chercheurs en sciences sociales ont beaucoup de chance. Ils sont payés par la société pour lire des livres, explorer des sources nouvelles, synthétiser ce qu'il est possible d'apprendre des archives et des enquêtes disponibles, et tenter de restituer ce qu'ils ont appris à ceux qui les rétribuent, c'est-à-dire le reste de la société. Ils ont parfois tendance à perdre un peu trop de temps dans des querelles disciplinaires et des assignations identitaires stériles. Pourtant, malgré cela, les sciences sociales existent bel et bien et jouent un rôle indispensable au service du débat public et de la confrontation démocratique. J'ai tenté de montrer dans ce livre qu'il était possible de mobiliser des méthodes et des matériaux issus des différentes sciences sociales pour analyser l'histoire des régimes inégalitaires dans ses dimensions à la fois sociales, économiques, politiques et intellectuelles. Je suis convaincu qu'une partie de notre désarroi démocratique contemporain provient d'une autonomisation excessive du savoir économique vis-à-vis des autres sciences sociales et de la sphère civique et politique. Cette autonomisation est pour partie la conséquence de la technicité et de la complexification croissante de la sphère économique. Mais elle résulte également d'une tentation récurrente des professionnels de ce savoir, qu'ils opèrent à l'université ou dans le monde marchand, de s'arroger un monopole d'expertise et une capacité d'analyse qu'ils n'ont pas. En réalité, seul le croisement des approches économiques, historiques, sociologiques, culturelles et politiques peut permettre de faire quelques progrès dans notre compréhension des phénomènes socio-économiques. Cela vaut notamment pour l'étude des inégalités entre classes sociales et de leur transformation dans l'histoire. Mais il me semble que la leçon est plus générale. Ce livre s'est nourri des travaux de nombreux chercheurs en sciences sociales de toutes les disciplines, sans lesquels cette enquête n'aurait pu exister. Parmi les chercheurs récents et moins récents particulièrement sollicités au cours de mon enquête, mentionnons notamment Mathieu Arnoux, Raph Blaufarb, Eric Bengtson, Denis Cogniaux, Frédéric Cooper, Nicolas Barrère, Julia Cagé, Noam Magor, Katharina Pistor, Sanjay Subramaniam, Serge Grusinski, Suzanne Bailey, Kenneth Pomerantz, Anna Arendt, Karl Poliani, Or Rosenbaum, Barbara Houghton, Christophe Jaffrelot, etc. Des dizaines d'autres auteurs sont cités au fil des chapitres. J'ai également tenté de montrer comment le regard de la littérature et du cinéma pouvait apporter une perspective complémentaire indispensable à celle des sciences sociales. Cette autonomisation excessive du savoir économique est aussi la conséquence du fait que les historiens, sociologues, politistes et autres philosophes ont trop souvent abandonné aux économistes l'étude des questions économiques. Or, l'économie politique et historique, telle que j'ai tenté de la pratiquer dans cette enquête, concerne toutes les sciences sociales. Tous les chercheurs en sciences sociales doivent, me semble-t-il, intégrer les évolutions socio-économiques dans leurs analyses, rassembler des données quantitatives et historiques chaque fois que cela est utile et se reposer sur d'autres types de méthodes et de matériaux dès lors que cela est nécessaire. L'abandon des sources quantitatives et statistiques par une large part des chercheurs en sciences sociales est d'autant plus regrettable que seul un regard critique sur ces sources et les conditions de leur construction sociale, historique et politique peut permettre d'en faire un usage raisonné. De fait, cette attitude a contribué à l'autonomisation du savoir économique autant qu'à son appauvrissement. J'espère que ce livre pourra contribuer à y remédier. Au-delà de la sphère des chercheurs, l'autonomisation du savoir économique a également des effets délétères sur la sphère civique et politique, car elle nourrit le fatalisme et le sentiment d'impuissance. En particulier, le journaliste et le citoyen s'inclinent trop souvent devant l'expertise de l'économiste, pourtant fort limitée, et se refusent à avoir une opinion sur le salaire et le profit, l'impôt et la dette, le commerce et le capital. Or, il ne s'agit pas de matière facultative pour l'exercice de la souveraineté démocratique. Surtout, ces questions sont complexes d'une façon qui ne justifie aucunement leur abandon à une petite caste d'experts, bien au contraire. La complexité qui est la leur est telle que seule une vaste délibération collective, fondée sur les raisonnements, les cheminements et les expériences de toutes et de tous, peut nous permettre d'espérer quelques progrès dans leur résolution. Ce livre a dans le fond un unique objet, contribuer à la réappropriation citoyenne du savoir économique et historique. Que le lecteur se sente en désaccord avec certaines de mes conclusions n'a au fond guère d'importance, car il s'agit pour moi d'ouvrir le débat, jamais de le trancher. Si cet ouvrage a pu éveiller son intérêt sur des questions nouvelles et lui permettre de s'approprier des savoirs qu'il ne détenait pas, alors mon objectif aura été pleinement atteint.